Allez, générique. Non, pas générique, c'est directement à moi. Bah, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Pardon, je m'attendais à ce qu'il y ait un générique. Non, non, excusez-moi. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans cette émission exceptionnelle en partenariat avec l'Agence de la biomédecine pour parler du don de gamètes. Les gens dans le chat, est-ce que ça vous parle si je vous parle de don de gamètes, don de spermatozoïdes pour les hommes, don d'ovocytes pour les femmes? Est-ce que c'est un truc qui vous parle ou est-ce que, comme moi, vous êtes complètement largué sur le sujet? Dites-le moi dans le chat, c'est un sujet assez important. Et cette émission, on l'a conçue spécialement pour briser les tabous, pour déconstruire les idées reçues et pour informer un maximum sur ce don. J'ai le plaisir sur ce plateau de ne pas être seul puisque je suis avec la docteure Claire Devienne. Salut Claire.
Salut.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Très content de t'accueillir sur ce plateau. Tu es médecin référente en AMP.
Alors ouais.
Ça veut dire quoi ?
AMP, c'est assistance médicale à la procréation. C'est l'autre mot pour PMA.
PMA, AMP, voilà. C'est bon, je l'ai.
C'est voilà. Et c'est tout ce qui est médical, technique pour aider les gens à avoir des enfants quand ils ne peuvent pas le faire spontanément ou quand il y a besoin d'un don de gamètes.
Et on va en parler de dons de gamètes, on va beaucoup en parler pendant cette émission. Je regarde un petit peu dans le chat pour voir si vous êtes largué ou si vous connaissez. Oui, il y en a qui savent. Ah, je suis enceinte.
Oui, on a quelqu'un
suite
qui est
à un don. Ah, oh, trop bien, très bonne nouvelle.
Félicitations. Bah voilà.
Fête des parents, vous verrez, on en parlera, fête des parents. Félicitations à toi. Je suis également sur ce plateau avec Kyria. Salut Kyria.
Salut.
Kyria, tu es créatrice de contenu, streameuse sur Twitch.
Tout à fait.
Ça fait plaisir de t'accueillir, comment tu vas ?
Eh ben, ça fait plaisir d'être là, écoute.
Trop cool.
Et ça va.
Trop
hâte
bien.
De pouvoir parler du sujet que je connais pas trop, en fait.
Eh ben, on va en parler, justement. Ouais. À côté de toi, on est avec Kitty aussi. Salut, Kitty.
Salut, salut.
Toi aussi, tu es créatrice de contenu sur Twitch.
Oui, c'est ça.
Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Sur ma chaîne KittyR6. Je fais essentiellement des FPS, donc rien à voir avec la biomédecine. Et franchement, c'est trop cool. Je suis grave contente d'être là parce que je n'ai jamais abordé de sujet très sérieux sur mon stream comme
ah
celui-ci.
Ah ouais, donc, j'ai eu l'occasion.
Ouais, vraiment être, tu vois, dans la biomédecine, c'est un truc qui est super sérieux, donc je suis hypée.
Mais c'est très sérieux, mais c'est aussi très humain. Enfin, on va en parler, oui, c'est quelque chose de technique, ouais. Mais c'est aussi super humain, c'est ça qui est très intéressant aussi dans ce sujet. Toutes les deux, votre niveau de connaissance sur le sujet du don de gamètes, don d'ovocytes, don de spermatozoïdes.
Tu sais que ça existe ?
Ouais, tu sais que ça existe. Non, mais moi, je suis comme toi. En vrai, je suis comme vous deux. J'ai fait exprès de pas trop me renseigner sur le sujet pour vraiment découvrir pendant cette émission. On est avec vous, les copains du chat. On va découvrir ensemble ce sujet. Un sujet qui va aussi être illustré par des visages. Tout à l'heure, sur le plateau, on sera rejoint par des donneurs. Un donneur, une donneuse. Et vous, dans le chat, qui n'hésitez pas, hein, pendant toute l'émission, à balancer vos questions, vos réflexions, vos réactions. On est hyper preneurs. Vous êtes là sur le plateau avec nous. Et voilà, Claire, on va commencer par une première question. C'est quoi l'Agence de la biomédecine ?
Alors, c'est une agence qui est sous tutelle du ministère de la Santé et dont la mission, c'est de s'occuper de la greffe d'organes, greffe de tissus, de cellules souches, de la génétique et de l'assistance médicale à la procréation.
Grève de tissu, ça veut dire quoi ?
Quand quelqu'un a besoin d'un tissu, je sais pas, de la cornée par exemple, il peut y avoir des donneurs de cornée. Voilà.
Oh.
Et donc cette agence, elle gère tout ça.
Ça fait combien de temps que ça existe, l'Agence de la biomédecine ?
Ça fait pile 20 ans.
Ça fait plus de 20 ans, c'est les 20 piges là ?
Pas plus tard qu'hier, en fait, elle est 20 ans de l'Agence de la biomédecine.
Joyeux anniversaire, l'Agence de la biomédecine. Voilà, ouais. Et donc c'est l'Agence de la biomédecine qui chapeaute le don de gamètes.
Et voilà, qui est là pour différentes choses, faire appliquer la loi sur le don de gamètes et puis promouvoir le don de gamètes. Le don de gamètes, c'est don ovocytes, spermatozoïdes. Et en fait, il manque énormément de donneurs et de donneuses en France pour permettre à tout le monde d'avoir accès à ce soin. Et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, c'est qu'il faut faire passer ce message.
On va en parler. Ça dépend de qui, l'Agence de la biomédecine ?
Ça dépend du ministère de la Santé.
Donc ça fait partie du ministère,
C'est sous tutelle.
C'est sous tutelle, voilà. D'accord, ok.
C'est quoi la différence, du coup, sous tutelle
C'est du droit administratif, là.
moi, je suis
ça change pas grand-chose. L'agence est une agence, c'est-à-dire qu'elle a son autonomie en termes budgétaires, en termes d'organisation, mais elle est sous la tutelle, donc sous les ordres du ministère de la Santé. Si ça faisait partie du ministère, on appellerait ça un service. Okay. Ou un bureau, tu vois.
D'accord. Okay,
mais alors vraiment, on est sur des différences tenues, là. Mm.
Okay.
On en parle, du coup, de ce don de gamètes, Claire.
Bah ouais.
De quoi on parle quand on parle de don de gamètes ?
Eh ben, on parle d'un don de vie, quoi. On parle de la possibilité d'offrir à des gens la chance d'être parent, quand on veut l'être. Et en fait, les gamètes, c'est des ovocytes d'un côté, on appelle ça aussi des ovules, mais bon, le vrai nom, c'est ovocyte, qui est fabriqué par les ovaires chez la femme. Et les spermatozoïdes fabriqués dans les testicules. Voilà. Mmh. Et donc, il faut que un spermatozoïde rencontre un ovocyte pour faire un embryon et ensuite un enfant. Et donc, il y a des personnes, des femmes qui sont en couple avec un homme qui ne peuvent pas procréer sans avoir recours à ce don-là. Il y a des couples de femmes qui ont donc besoin d'un don de spermatozoïde et il y a des femmes non mariées. Donc, tout ça, ça fait 4 ans que c'est possible grâce à la loi de bioéthique 2021. Que les couples de femmes et les femmes non mariées, donc les femmes seules, peuvent accéder à ce soin-là. Okay. Voilà. Et ce qui s'est passé il y a 4 ans au moment de la loi, c'est que du jour au lendemain, c'était pas anticipé à ce point-là. Mmh. Le nombre de femmes qui sont venues parce qu'elles avaient ce droit, qu'elles n'avaient pas avant, était énorme, quoi. Donc ça a été on ne s'attendait pas à ça.
Ça a explosé à ce moment-là ?
Ça a explosé du jour au lendemain.
Donc, question, parce que vous avez parlé de femmes non mariées. Pour pouvoir faire une demande avant, il fallait être mariée ou en couple ?
Non, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que tu peux faire une AMP en étant seule.
D'accord.
Mais si tu es seule, mais que tu as un mari, mais que tu veux faire le bébé sans ton mari ou vous êtes séparée, il se trouve qu'il y a un truc qui s'appelle la présomption de paternité.
Ouais, okay. sur l'homme marié.
Sur l'homme marié, donc la loi le prévoit. C'est pour ça, et moi je suis tellement habituée à dire les trucs, je dis femme non mariée, mais en fait c'est une femme qui va faire ça en solo, quoi.
D'accord, okay. Voilà.
Il y a une question dans le chat, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a tant besoin que ça ?
Alors il y a tant besoin que ça, parce que les 10 d'attente, là on est à presque 18 mois.
18 mois d'attente.
Quand on veut des spermatozoïdes d'un donneur, et on est à 2 ans quand on attend les oocytes d'une donneuse.
Et avant, du coup, avant ce boom de 2021, c'était à peu près...
C'était beaucoup plus petit, on était à 6 mois, 1 an, suivant les centres. Ouais.
C'est non, mais déjà pas mal. Hein.
Là, il faut se rendre compte qu'avant, on était à 1000 couples hommes-femmes par an qui avaient besoin d'un don de spermatozoïdes. Et depuis là, 2021, on est à 50 000 femmes.
Nouveaux, 50 000
Oui.
Wow. Qui attendent.
Qui ont fait la démarche.
Qui ont fait la démarche.
Voilà, de commencer leur parcours. Voilà.
Ça représente combien de personnes qui donnent ?
Alors les donneurs, là, on est à 1000 donneurs de spermatozoïdes, 900 donneuses d'ovocytes, et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas encore, voilà.
Il n'y a que 1000 hommes en France qui donnent leurs spermatozoïdes.
Et encore, c'était moins que ça l'année dernière. Donc là, on a l'impression qu'il y a un peu plus en 2024 par rapport à 2023. Mais on est encore loin du compte, puisqu'on est encore à 17 mois.
Et quelqu'un qui demande, il en faudrait combien ?
Eh bien, il en faudrait 4 fois plus.
4 fois plus ou moins ? D'accord.
4 fois plus de donneurs pour...
En fait, ce qu'on veut, c'est quoi ? C'est qu'on veut avoir beaucoup de donneurs, parce qu'on veut pouvoir choisir aussi le donneur le plus approprié pour la personne ou le couple.
Et comment on choisit ça ?
Et on choisit sur des critères physiques, couleur des yeux, des cheveux, de la peau. C'est le plus souvent. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas forcément, je m'en fiche, etc. Mais le plus souvent, les gens, ils demandent quelqu'un qui ressemble... sur quelques critères comme ça, puis il y a des critères plus médicaux, parce que, on en parlera tout à l'heure, mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de risque de transmettre une maladie, ou alors s'il y a un petit sur-risque, on ne va pas essayer de multiplier ce risque si la personne qui reçoit le même, etc. Voilà.
D'accord.
Donc, on cherche un bon match. Et pour avoir un bon match, il va falloir vraiment du choix. Ce n'est pas les gens qui choisissent pour eux le donneur, c'est le médecin du centre de don qui va dire, et plus sa banque de sperme est importante, plus on peut aller au plus près de ce qui va permettre aux personnes d'avoir un enfant qui leur ressemble.
Okay. Du coup, si c'est le médecin qui est choisi, pourquoi des critères comme la couleur des yeux, par exemple, sont pris en compte ?
Alors, pourquoi tu te poses la question ?
Parce que je ne suis pas sûre de voir le rapport entre médecine et la couleur des yeux, par exemple. Autant pour ce qui touche aux maladies, je peux comprendre.
Ouais.
Autant sur des critères qui sont un petit peu plus physiques.
En fait, c'est la même personne. Il faut imaginer la personne qui va gérer le don dans son centre. Il va gérer tous les aspects médicaux. Et au moment de décider, ça sera ce donneur-là qui ira à cette personne-là. Ça fait partie des critères de choix.
Ok.
C'est pas une machine, c'est des humains qui sont là. Et qui font ça.
Alors, il y a quelqu'un qui pose une question qui fâche dans le chat. C'est et pourquoi est-ce qu'on paierait pas les dons ? Ça aiderait.
Alors, parce que la loi française est ainsi faite que le don d'éléments du corps humain, ça doit être gratuit. Ça doit être gratuit aussi parce que ça permet un véritable volontariat. Donc, les gens ne vont pas faire ça uniquement pour gagner de l'argent, uniquement pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, le principe du don en France, c'est anonymat, gratuité et volontariat. Et donc, c'est comme ça qu'on s'affranchit des problématiques de j'ai fait le don, mais en fait, j'avais pas tellement envie.
Oui. Ouais. Okay. Il y a d'autres pays dans lesquels ça marche pas de la même manière. Je crois qu'il y a des pays dans lesquels c'est un peu le Far West.
Ouais, la France est vraiment une exception en matière de loi de bioéthique. Hein. Donc, l'absence de rémunération, c'est-à-dire qu'il y a ensuite des pays qui disent on rémunère pas, mais on compense.
On dédommage.
On dédommage, on compense, etc. Donc en France, la personne qui fait son don, elle ne va pas recevoir d'argent. Par contre, elle va être dédommagée pour tous les frais que ça va engendrer. Des frais de revenus professionnels, des frais de garde d'enfant, je ne sais quoi.
Okay.
Voilà. Pour que ça ne lui coûte pas d'argent, au moins à la personne qui donne.
Ça ne coûte pas d'argent.
Okay.
Il y a beaucoup de questions dans le chat. Continuez à poser vos questions. Les questions auxquelles on ne répond pas immédiatement, rassurez-vous, c'est prévu dans l'émission qu'on y apporte une réponse. Ça viendra un petit peu plus tard. Là, on est encore en train de découvrir et de dégrossir un petit peu. Je voulais te demander, il y a combien de couples infertiles en France ? Est-ce qu'on le sait ?
Je crois à peu près un couple sur six qui a des problèmes pour avoir des enfants.
Ah oui, la vache !
C'est énorme.
Énorme. Et en France, c'est un enfant sur 24 qui est né d'une assistance médicale à la procréation. Voilà. Donc il y en a plus d'un par classe. Pas forcément des dindons, dons de gamètes. Hein. Dons de gamètes, c'est une petite partie de l'AMP.
On peut faire une AMP sans dons de gamètes ?
Eh ben, quand on est un couple homme-femme, ouais. qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, qu'on a quand même des spermatozoïdes, on a quand même des ovocytes.
D'accord.
Mais pas assez nombreux, et on en galère, ça fait longtemps, on n'y arrive pas. Voilà.
Donc c'est pas la majorité.
Par exemple, je suis une femme, j'ai des ovocytes, tout va bien, mais j'ai plus de trompes. Il y a mille et une raisons. On découvre quelquefois, on ne sait pas lesquelles, et on peut avoir besoin de ces techniques-là.
Probablement des gens parmi vos proches, hein, vous pouvez le dire dans le chat, si vous connaissez quelqu'un ou un couple d'amis qui a recours à l'assistance médicale pour procréer. C'est mon cas, j'ai des amis, je l'ai appris récemment autour d'un verre, qu'ils étaient rentrés dans un processus, et je ne savais pas du tout que ça existait.
C'est encore tabou, hein. C'est incroyable.
Bah ouais.
Hein.
Ouais. Enfin, je ne sais pas, tu me dis ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça se décoince quand même un petit peu et qu'on en parle plus facilement.
Je crois que la loi de bioéthique, elle a aidé, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de l'AMP à ce moment-là.
Alors parle-nous de cette loi de bioéthique en 2021, qu'est-ce qu'elle a changé ?
Elle a changé trois trucs hyper importants. On en a parlé, le fait de pouvoir avoir accès à l'AMP quand on est un couple de femmes ou une femme seule. Ça a permis de conserver ses ovocytes pour soi-même, pour plus tard éventuellement, sous réserve de certaines conditions d'âge. Et ça a permis aux personnes nées d'un don de pouvoir connaître un jour, s'ils le souhaitent, une fois qu'ils sont majeurs, l'identité de la personne qui a donné. Donc, ils peuvent demander à connaître nom, prénom, date de naissance, donc un truc très identifiant. Ouais. Ils peuvent demander à connaître toute une série de choses que le donneur a voulu donner comme information. Il peut choisir de ne pas connaître l'identité, mais que d'avoir des infos sur le donneur,
okay.
ou de tout avoir.
Est-ce qu'elle peut contacter la personne, ou il peut contacter la personne, ou ce n'est pas possible ?
Une fois qu'on connaît l'identité de quelqu'un,
on
peut vouloir le rencontrer.
D'accord.
La loi, elle ne prévoit pas la rencontre, la loi, elle prévoit la possibilité de...
Okay.
Et ça, c'est parce que le donneur a dit « Ok, je suis prêt à ». Mm. Et une fois que le donneur a bien signé tous les consentements, a bien pigé et a fait son don, il ne peut pas, en cours de route, après dire « finalement, non ».
D'accord.
Tu sais si ça arrive beaucoup, des enfants nés comme ça, d'un don qui demande à rentrer en contact, à connaître la personne qui a donné ?
Figure-toi que donc, c'est depuis pas si longtemps… qui a maintenant au ministère de la Santé une commission qui sert à ça, à recueillir les demandes des personnes nées de dons, qui disent « voilà, je suis née d'un don, j'aimerais bien savoir qui est mon donneur ». Sauf que je crois qu'il y a eu 2000 personnes qui ont déjà fait les démarches en quelques années, là, en 3 ans. Et en fait, ce n'est pas toujours possible, parce que là, on était avant la loi de bioéthique, sur le principe de « jamais on pourra connaître l'identité du donneur ».
Et du coup, ce sera possible, on aura plus de demandes d'ici 15-20 ans.
Alors,
je vais espérer...
En fait, ça dépend aussi de comment les gens perçoivent ça. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas du tout.
Ouais, d'accord.
Je sais pas.
Ouais. En tout cas, la loi le permet désormais, et c'est ça une des grandes nouveautés de cette loi de bioéthique. Ouais. Je vois quelqu'un dans le chat qui me dit que ça doit être dur pour quelqu'un de ne pas pouvoir retrouver aucune info sur son parent, sur son donneur, On n'utilise pas le mot parent d'ailleurs, on utilise le mot donneur.
Oh non, c'est pas un parent, non. Les parents, c'est. Les
parents, c'est les gens avec qui on a grandi.
C'est, bah, pas, c'est ceux qui ont le projet d'enfant.
Mais du coup, un donneur ou une donneuse peut faire le choix, par exemple, de ne pas pouvoir être contacté par la suite.
Ah, c'est plus possible.
Le choix est obligatoire.
Maintenant, aujourd'hui, c'est obligatoire. Il faut être d'accord pour transmettre son identité.
Donc ça veut dire que peut-être que 18 ans plus tard, il y a quelqu'un qui vient toquer.
Et voilà. Et ouais, bah ouais. Tout à fait.
Ok.
Non, okay. Mais c'est intéressant. Alors,
ouais, c'est bon à savoir.
On va rappeler un truc important que tu as dit tout à l'heure. Il y a trois grands principes dans le don de gamètes en France. Ouais. Le principe de volontariat, le principe de gratuité et le principe d'anonymat. Prenons-les dans l'ordre. Ça veut dire quoi? Le geste doit être volontaire.
Alors volontaire, ça veut dire qu'il ne faut pas subir de pression pour donner.
Okay.
C'est un don quand même incroyable, particulier. Voilà. Il ne faut pas être contraint par quelqu'un pour le faire. Donc, par exemple, je vais pas devoir. Enfin, il faut pas que je sois contraint par ma sœur à le faire parce qu'elle, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Donc, le principe, c'est que pour pas qu'elle soit contrainte, il n'y a pas possibilité de dire à la sœur, si je ramène une donneuse, je gagne 6 mois dans la liste d'attente. Ça, c'est interdit.
D'accord.
Donc, il faut vraiment pas qu'il y ait une rétribution de quelque nature qu'elle soit qui contraindrait un peu la personne qui. Bon, je le fais pour elle, mais sinon, j'aurais pas vraiment fait. Quoi.
Okay.
Principe de gratuité, on l'a dit tout à l'heure, c'est assez simple. On ne peut pas, on n'a pas le droit d'être payé pour donner ses spermatozoïdes ou ses ovocytes. C'est interdit.
Interdit.
Ça arrive, des gens qui essayent?
Bah, j'en ai pas entendu parler, non. Alors,
ça me dit rien.
Il y a longtemps, quand je travaillais dans un CHU, ça arrivait qu'on voit passer des personnes qui en fait n'étaient pas motivées du tout, mais en fait on les détectait assez vite.
Pourquoi? Comment tu les détectais?
Parce que pas motivé, quoi.
Ouais, ok.
Bah, pareil, voilà, quelqu'un qui arrive super motivé, ça se voit tout de suite.
Je regarde dans le chat, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des critères qui excluent d'office un donneur?
Eh bien, ce qui exclut tout de suite, c'est quand on n'a pas les bonnes conditions d'âge.
C'est quoi les conditions?
C'est-à-dire que chez une femme, c'est à partir de 18 ans jusqu'au 38e anniversaire, donc 18-37, et chez l'homme, c'est 18-44.
D'accord.
Voilà. Chez la femme, c'est un peu plus jeune, la limite, hein, parce que la fertilité baisse plus vite. Ça. Ensuite, autre condition, il faut être en bonne santé. Donc, à partir du moment où on a une maladie, quelque chose, très, très souvent, on n'est pas choisi parce que. Il y a un risque pour soi de transmettre la maladie. Et puis, c'est ça l'essentiel. Ensuite, c'est aussi le rôle des centres qui s'occupent de dons de gamètes. C'est de faire un vrai bilan, un check-up complet pour savoir si oui ou non on peut donner.
Ok. Moi, j'avais une question. Est-ce que les personnes qui deviennent parents sont obligées, sont tenues de dire à leur enfant plus tard qu'il est ou elle née d'une conception PMA?
Alors, on ne peut pas forcer les gens, ouais. Mais la loi, elle a prévu que... Elle a réussi à tourner ça d'une façon, mais...
Oui.
Qui est de dire il faut que les futurs parents, ou les parents, créent les conditions pour permettre d'informer l'enfant qu'il est issu d'un don.
D'accord.
Et ce, dès le plus jeune âge. Donc c'est aussi ce que disent les personnes qui sont concernées, les personnes dans les associations de patients, qui disent, mais il faut en parler très
direct.
Très jeune, direct. C'est un bébé, ben, on prend les mots qui viennent, et puis de toute façon, plus on le dit, plus tôt, etc., plus c'est facile, et ça sort facilement, et l'enfant, c'est son histoire, et ça ne pose pas de soucis dans ces conditions.
Ça permet de normaliser un petit peu, pour que l'enfant puisse quand même aussi se réapproprier ça, je suppose.
Oui, et puis pour les parents aussi.
Oui.
C'est une parentalité avec un don de gamètes qui est particulière, donc il y a tout un cheminement aussi à faire, et une façon de parler à l'enfant. Il y a des choses très très bien, des assos super qui accompagnent les gens là-dedans.
Okay. Qu'il n'y ait pas un choc psychologique un jour en apprenant que...
Ah, c'est ça, on sait qu'apprendre quand on est plus grand, voire adulte, qu'on est né d'un don, ça peut être un trauma.
D'accord, ok.
Quelques chiffres, est-ce que vous connaissez le délai moyen de prise en charge pour une assistance médicale à la procréation avec don de spermatozoïdes, Kyria et Kitty? Combien de temps il faut attendre?
Je l'ai dit tout à l'heure.
C'était 2 ans pour une femme, je crois, pour un don d'ovocytes.
Ouais, c'est ça.
Et 18 mois, ouais, jours, ouais. Les spermatozoïdes.
Exactement, c'est exactement 2 ans. Bravo, félicitations. c'est assez impressionnant, hein, c'est 2 ans de délai pour un don d'ovocyte et 18 mois pour un point.
Mais ça dit qu'il faut y penser, voilà, et puis il faut donner ses ovocytes et ses spermatozoïdes, quoi.
Et en fait, pourquoi du coup c'est aussi long pour les ovocytes? Pourquoi il y a cet écart entre spermatozoïdes et ovocytes?
Parce qu'un donneur de spermatozoïdes, il va donner plein de spermatozoïdes. On peut les stocker, il y a plein de paillettes, on peut faire plein d'essais.
D'accord.
Une donneuse, elle va donner en moyenne les 8 ovocytes. Et puis, donc, il en faut en général 12-15 pour une naissance.
Ah ouais?
Ouais. Et ensuite, ça dépend de l'âge de la femme qui donne et tout ça. Mais ça marche. Ça marche pas comme ça. Il faut beaucoup d'ovocytes pour que ça fonctionne.
Parce que du coup, si une femme, elle donne en moyenne 8 ovocytes, elle y retourne une fois par mois pendant 8 mois?
Non.
Non.
Non. Une femme qui va donner ses ovocytes, elle les donne.
Ok, c'est tout d'un coup.
Alors en fait, ce qui se passe, mais peut-être raconter là comment ça marche.
Vas-y, je t'en prie. Au pire, on le répétera.
Ouais. Donc quand une femme va donner ses ovocytes, donc il y a toute une phase de bilan, on en reparlera, et ensuite il y a une phase de traitement parce que chaque mois, une femme, elle fabrique un seul ovocyte.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je m'interrogeais.
Ouais. Ce qu'il faut, c'est qu'elle en fabrique plein ce mois-là.
D'accord.
Donc, elle prend un traitement qui est le même traitement qu'une femme qui va faire une fécondation in vitro pour elle-même. Donc, des injections d'hormones pour faire grossir l'ovaire et qu'il n'y ait pas juste un ovocyte qui soit fabriqué, mais une dizaine. Et ensuite, on va les chercher. Parce que, voilà. Donc, ça veut dire qu'on appelle, nous, la ponction d'ovocytes. Donc, c'est une échographie par voie vaginale, truc classique, qui permet de voir l'ovaire avec une petite aiguille qui vient chercher et récupérer tous les ovocytes qui sont dans l'ovaire.
D'accord.
Et ce geste-là, il dure 10 minutes. On est en surveillance 2 heures après et ensuite on rentre chez soi. Voilà. Et ça, c'est un don d'ovocytes. Et il y a des femmes qui sont particulièrement généreuses et qui reviennent faire un deuxième don d'ovocytes. Et ça peut même être possible 3 ou 4. Voilà. Mais en général, c'est 1, 2, c'est déjà formidable.
Et il y a une limite à ça? Au don
Alors, maximum 4.
D'accord.
Une femme peut donner maximum 4, c'est-à-dire faire maximum 4 ponctions.
Et c'est pourquoi 4 exactement? C'est juste biologique?
C'est aussi pour pas qu'il y ait trop de risques pour sa santé non plus.
Ok, d'accord.
Parce que ça reste une ponction. Une ponction, c'est un peu comme un geste chirurgical, quoi. Il y a une aiguille qui arrive dans le bide à un moment et... Donc, il peut y avoir des risques pour sa santé.
D'accord.
Qui sont rares, qui sont expliqués avant et tout, mais ça peut arriver.
D'accord.
Ouais, okay. Et puis, j'imagine que les piqûres d'hormones, je ne sais pas si c'est piqûre, mais j'imagine que la prise d'hormones aussi, au bout d'un moment, c'est très vite d'en prendre.
Les hormones, c'est surtout sur le moment, quoi.
Ouais.
C'est, toutes les femmes qui ont un syndrome prémenstruel le voient, ça peut être un peu perturbant, parce que c'est des hormones un peu mal dosées.
Ouais.
Ça fait un peu mal au ventre, c'est inconfortable, voilà. Alors, il y a des femmes qui le fument vachement mieux que d'autres, mais oui, c'est pas rien. Puis, et c'est aussi, finalement, un cycle qui est intense en termes d'agenda.
Mm-hmm.
Parce qu'il faut d'abord, au moment du début du traitement, il y a une première échographie prise de sang.
Mm.
On prend le traitement et ensuite, il y a 2-3 fois pendant les 12 jours de traitement où on doit venir dans le centre où, faire échographie prise de sang. On est rappelé l'après-midi. Bon, ok, encore 2 jours, etc.
Ok.
Voilà. Donc il y a 12 jours de traitement, la ponction des ovocytes, et puis après, il y a les règles qui reviennent souvent un peu plus tôt. Et puis après, on reprend la vie normale. Mais c'est du temps.
J'ai noté des chiffres, on a déjà eu l'occasion de passer dessus, mais je les redis parce qu'ils sont importants. Il y a 10 000 personnes qui sont en attente d'une PMA avec don de spermatozoïdes, 10 000, et 2 800 personnes en attente d'une PMA avec don d'ovocytes.
C'est ça.
C'est très impressionnant. Pour reparler des candidats tout à l'heure, les candidats au don de spermatozoïdes, on en a recensé 1 000 en 2024, un tout petit peu plus, et 929 femmes ont été candidates au don d'ovocytes en 2024, donc c'est à peu près similaire. Tu disais tout à l'heure, pour que ça aille mieux, il faudrait qu'on en ait 4 fois plus de dons de spermatozoïdes ou d'ovocytes, tous les deux.
Écoute, on n'a pas les chiffres précis.
Ouais, non, c'est sûr.
On ne sait pas dire avec précision ça. Mais oui, les ovocytes. C'est-à-dire que les ovocytes, ce qui est terrible, c'est qu'il y a même des personnes qui sont même pas inscrites sur liste d'attente. Parce qu'en sachant que c'est 2 ans d'attente, on dit sachant qu'il y a 2 ans d'attente, du coup, je vous inscris même pas. Voilà. Donc c'est biaisé en plus.
Ouais, je vois
donc,
ce que tu veux dire.
Évaluer c'est combien il en faudrait, c'est très difficile.
Je comprends. Il y a une histoire de stock à reconstituer depuis la loi bioéthique aussi, ça, je n'ai pas très bien compris.
Oui, si, c'est parce qu'on est passé d'un régime où le donneur était anonyme, même pour les personnes nées dedans,
ouais.
à cette période actuelle où les donneurs doivent autoriser l'accès à leur identité. Donc, toutes les personnes qui avaient donné avant, donc qui étaient anonymes,
on n'utilise plus leur
utiliser leur gamète.
Ouais, on n'utilise plus leur gamète.
Ils ont été détruits, tac, fini.
Ok. Donc, il faut repartir
donc
de zéro.
Donc là, on est reparti d'un stock qui a été un peu constitué, mais qui n'est pas encore suffisamment constitué.
Donc, ok, je comprends.
Par curiosité, pourquoi est-ce que maintenant l'anonymat doit être levé sur le... Enfin, je ne sais pas si...
C'était une demande des enfants, mais... je crois. C'était une demande des enfants qui grandissaient et qui disaient comment ça se fait que je peux avoir accès à aucune information sur le donneur dont je suis né.
Ok. Parce qu'avoir des informations médicales, par exemple, ça me paraît important.
Oui.
Mais alors, le fait qu'il y ait une levée d'anonymat sur en fait,
les... Il y a eu des débats à l'Assemblée là-dessus. Hein,
ça ne m'étonne pas. Ouais.
Clair.
En fait, oui, c'est les assos qui ont beaucoup agi pour ça, des assos de personnes nées de dons, qui certaines ne sont pas très satisfaites du fait qu'ils n'ont pas accès aux informations médicales.
Oui, ces informations médicales, ça me paraît évident qu'il faut l'avoir. Quoi.
Ils n'ont pas accès aux informations médicales du donneur.
Ah non, ça, c'est pas normal.
Ils ont accès à l'identité... à la situation familiale, par exemple, au moment du don, aux motivations du donneur. Et comme ils n'ont pas accès aux informations médicales, c'est aussi la raison pour laquelle la sélection des donneurs est très stricte en termes de risque de transmission de maladies génétiques. Voilà.
D'accord.
Parce que la loi ne permet pas.
Parce que même si on connaît l'état de santé du donneur ou de la donneuse, on ne connaît pas forcément l'état de santé sur les parents, les grands-parents, enfin, il peut y avoir par exemple des risques...
Alors c'est pour ça qu'en fait les donneurs, les candidats aux dons, ils sont interrogés énormément sur leurs antécédents familiaux.
Oui, okay.
Et en fait, et c'est très difficile pour les donneurs, candidats aux dons qui un jour on leur dit « non, finalement, vous ne pouvez pas donner ». C'est justement parce qu'il y a des antécédents familiaux qui ont l'air complètement banals et bénins, et pourtant ça va être un obstacle aux dons parce que sinon c'est une information qu'on ne pourra pas transmettre aux personnes nées de dons. Donc, par exemple, un truc anodin, mais ça nécessite de faire une échographie cardiaque à partir de l'âge de 40 ans. Un exemple complètement au hasard. Cette information-là, on ne peut pas la donner aux enfants qui sont nés dedans. Donc, on ne peut pas accepter ce nom-là. C'est du coup assez complexe pour les gens qui veulent donner.
Oui.
Parce qu'on est en bonne santé, on va bien, on peut soi-même avoir des enfants. Mais on ne peut pas toujours faire le don.
Est-ce que tu as la statistique des personnes qui aimeraient bien donner, mais qui sont refusées?
Ben, ça dépend. On n'a pas des statistiques fiables.
Ok.
On doit être autour de un quart, un tiers.
Ah oui, quand même.
Et il y a des pays où c'est beaucoup plus que ça encore.
Ok. Ok, ok.
Je dis bienvenue et bonjour à celles et à ceux qui nous rejoignent dans cette émission. On est en partenariat avec l'Agence de la biomédecine pour parler de dons de gamètes, donc dons de spermatozoïdes pour les hommes, dons d'ovocytes pour les femmes. On est avec le docteur Claire Devienne, que je remercie une fois de plus de venir répondre à toutes nos questions. Nos questions, on les pose avec Kyria et Kitty qui m'accompagnent sur ce plateau. On continue, on va récapituler des choses qu'on a déjà dit, mais c'est le principe de cette émission, on va les redire, c'est pas grave. C'est quoi les informations que l'enfant issu de mon don aura de moi ? Qu'est-ce qu'il saura ?
Alors, il saura seulement s'il a envie.
Seulement s'il a envie, et à sa majorité.
Et à sa majorité. Il saura nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Il saura la situation familiale, professionnelle, les caractéristiques physiques, yeux, cheveux, etc. Et les motivations. Pourquoi j'ai décidé de faire un don d'ovocyte à ce moment-là de ma vie, et je peux raconter.
Okay.
D'accord. Qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas que mon identité soit communiquée à l'enfant ?
Eh bien, je ne peux pas donner.
C'est depuis la loi de bioéthique, ça, c'est clair ?
C'est clair, impossible.
Il n'y a plus cet anonymat total ?
Voilà, c'est ça.
OK.
Par contre, l'anonymat, il persiste. Hein. Tout à l'heure, on disait, il y a les trois principes, gratuité, volontariat, anonymat. Et on dit, mais en fait, l'enfant peut savoir. En fait, seul l'enfant peut savoir. L'anonymat, il reste entre la personne qui donne et la personne qui reçoit. Elles ne se connaîtront pas. Ils ne peuvent pas savoir à qui on donne.
D'accord.
Donc, je ne peux pas donner pour ma sœur, ma cousine, etc. C'est impossible.
OK.
Combien d'enfants peuvent être conçus grâce à mon don ?
Maximum 10.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Pour limiter le risque d'union consanguine après. Autrement dit,
la génération d'après.
Que les personnes nées d'un don, imaginons qu'elles soient très nombreuses sur un petit bassin de population, il pourrait y avoir un risque d'union consanguine. Donc la loi française prévoit maximum 10 enfants qui naissent d'un donneur.
Donc, 4 pour les femmes, du coup, c'est ça?
Non. Parce que oui. Donc, 10 enfants au total. Donc,
okay.
Une femme peut donner 4 fois ses ovocytes.
Okay.
Mais 4 fois ses ovocytes, tu auras peut-être 40 ovocytes.
Okay.
Il n'y aura peut-être qu'un enfant ou deux enfants qui naîtront. D'accord. Okay. Peut-être 0, on ne sait pas.
Il y a quelqu'un qui demande, il n'y a pas de catalogue pour choisir son donneur?
Pas en France.
Encore une fois, on est en France. Il y a des délires qui se passent dans d'autres pays qu'on embrasse, mais...
On embrasse.
Pas de ça ici.
On les embrasse bien fort.
On rigole, mais c'est, je crois, dans les universités aux États-Unis qu'il y a des petites annonces pour demander aux étudiantes de donner leurs ovocytes, moyennant argent. Il y a des dérives dans d'autres pays. Nous, en France, on a la loi de bioéthique qui est venue justement essayer de réguler un petit peu tout ça. Est-ce que je pourrais savoir si mon don a permis une naissance ou plusieurs naissances?
En fait, on ne peut pas savoir. Sauf si un jour, la personne vient et dit « je suis née de ton don ».
18 ans plus tard.
C'est ça. Ouais. Non, mais avant, non, c'est impossible. Impossible.
Ok, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il puisse me contacter directement et me réclamer un droit à la parentalité?
Alors, pour répondre sur le droit à la parentalité, non. Il y a une sécurisation de la filiation, c'est comme ça que ça s'appelle. Pour être sûr que la personne née de don ne puisse pas dire « je suis ton fils, en fait, et je vais récupérer ton héritage. »
« Je veux une pension.
» Et inversement, enfin voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui vont avoir recours à un don de spermatozoïdes ou d'ovocytes vont chez le notaire et disent, et signent, « je consens à réaliser une assistance médicale à la procréation avec don de gamètes. » Et à ce moment-là, la filiation est sécurisée.
Ok.
Et le risque de rencontre, c'est-à-dire que les gens qui décident de donner leur gamète en disant « ok, je donne mon identité pour les enfants nés du don », pour eux, ce n'est pas forcément un risque, c'est qu'ils sont ok avec l'idée.
D'accord.
Il y en a beaucoup qui réagissent dans le chat parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de catalogue en France, et pourtant on a dit un peu plus tôt dans l'émission qu'il y a quand même des critères physiques qui sont choisis. Ce n'est pas la même chose entre un catalogue et des critères physiques. Un catalogue, on a la photo du bonhomme, on a son nom, son prénom, son métier.
On feuillette.
On choisit comme ça, moi je veux le faire.
Pas lui.
Je prends ses spermatozoïdes à lui. Donc là ce n'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment des critères physiques, on ne connaît pas l'identité.
Non, et c'est que les professionnels du centre autorisés à faire du don qui, eux, vont choisir. Donc, eux, ils ont une liste, ils ont un stock et eux, ils décident. Mais c'est tout.
Okay. D'accord. Okay. Et donc, les personnes vraiment qui reçoivent le don ne connaîtront jamais le donneur?
Jamais. À moins que leur enfant, 18 ans plus tard ou plus, leur dise... voilà.
Okay.
Mais eux, ils n'ont aucune possibilité de savoir qui c'est.
D'accord.
Okay. Sinon.
Est-ce qu'il y a des examens préalables avant de donner ses gamètes? Une question dans le chat.
Oui. Alors, avant de donner ses gamètes, il faut vérifier, 1, qu'on ne risque pas de transmettre une maladie génétique, 2, qu'on ne risque pas de transmettre une maladie infectieuse, et qu'on ne risque pas, pour les femmes, que tu appuies sur le micro.
Fais attention, quand tu tapes dessus, ça fait boum.
Désolée. Et les femmes ont fait attention à ce qu'elles n'aient pas de risque pour leur propre santé, ou le moins possible en cas de, pour le don. Donc, on parlait du traitement et de la ponction et tout ça. Voilà, donc il y a un check-up et puis il y a aussi un accompagnement avec une psychologue ou un psychologue parce que c'est un don assez particulier et il y a plein de questions auxquelles on a besoin de réfléchir et ça permet d'en discuter avec quelqu'un et de le voir éventuellement plusieurs fois.
Alors du coup, pour n'importe quel souci de santé, même léger, on est exclu des donneurs, c'est ça ?
Pas léger.
Ok.
Si t'as un rhume, ça va.
Non, mais imaginons, t'es myope, par exemple, tu vois.
Ou quelque chose comme ça.
Ou alors, t'as un antécédent en mode ta grand-mère a déjà fait un AVC, parce que du coup, c'est considéré comme un risque cardiaque et du coup, ça peut se répercuter.
Eh bien, il y a des généticiens qui ont réfléchi à ça. Il y a des listes, une liste de tous les critères qui pourraient plutôt conduire à refuser ou pas.
Ok.
Et ça, c'est des discussions de spécialistes qui se mettent d'accord. Mais c'est des questions hyper importantes et intéressantes.
Une question dans le chat que je trouve intéressante. Est-ce que si un enfant né d'un don développe une maladie, le donneur est averti?
Oui.
Parce que ça peut...
Exactement. Parce qu'on disait, les enfants nés d'ons n'ont pas accès au dossier médical du donneur. Par contre, s'il y a une maladie qui est diagnostiquée chez l'enfant... qui est peut-être devenu adulte, mais en tout cas chez l'enfant ou chez le donneur. Donc là, c'est indispensable que l'autre côté sache.
Aille chez le médecin le plus possible pour faire un test.
Et en fait, dans ce cas-là, donneur, il dit au centre de don, moi j'ai une maladie génétique, paf, l'enfant de l'autre côté va être inverti, ou ses parents. Et s'il y a des mesures de traitement, de prévention, des choses comme ça, ça peut être mis en place.
Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur toi, Claire ?
Ouais.
C'est quoi ton parcours ? Raconte-nous.
Ah, moi, je suis gynécologue obstétricienne.
Ok.
Et je me suis spécialisée en médecine de la reproduction. J'ai travaillé dans un CHU à faire de la fécondation in vitro. À l'époque, c'était que des couples, hommes-femmes. Et puis un jour, j'ai arrêté. J'ai fait un énorme burn-out. Et je me suis dit, peut-être que je peux, grâce à ça, envisager d'avoir une autre vie professionnelle. En général, quand on est médecin, on reste sur un rail.
Ouais. Mmh.
Et là, j'ai envisagé autre chose. Et puis, il se trouve que ce poste de référente en AMP à l'agence, il s'est libéré. Et du coup, j'ai découvert ça, le travail dans une agence. Et c'était hyper intéressant, c'était au moment des débuts de la révision de la loi de bioéthique, donc les premières lectures à l'Assemblée. Mmh. Et donc, j'ai suivi les débats et tout. Voilà.
Donc, en 2021
2019, ça a commencé.
OK.
Voilà, ça a été interrompu parce qu'il y a eu le Covid, et puis ça a repris. Mmh. Et voilà, 2 août 2021, la loi est promulguée.
Qui dit qu'il faudrait que tu mettes tes cheveux de l'autre côté parce qu'ils sont sur ton micro, c'est juste ça, t'inquiète. Ça
non, moi, il n'y a pas de souci.
Très beaux cheveux. C'est quoi ton rôle exactement aujourd'hui à l'agence ? L'agence de la bioéthique, je rappelle. Biomédecine.
Le rôle, c'est un peu de l'agence, c'est d'aller vers plus de qualité, plus de sécurité. Alors, qualité des soins, sécurité pour les donneurs, les receveurs, les enfants. Et l'équité dans l'accès aux soins sur le territoire, en fait. C'est des grandes missions, et ça passe par différentes choses, et sur l'application de la loi. Donc, par exemple, une fois que la loi a été votée, il y a des textes pour préciser comment on va appliquer la loi. Donc, ça, c'est le rôle de l'agence travailler à ça, par exemple.
Est-ce que tu rencontres encore aujourd'hui des patients, des couples qui sont en processus
Non, je ne rencontre plus. Alors, on est sollicité par des personnes... Qui sont en cours de traitement ou qui souhaitent un traitement, mais on n'est pas dans le soin, donc on ne travaille pas sur les dossiers des patients à l'agence.
D'accord.
Et du coup, ta journée un petit peu type au travail, quoi, c'est quoi exactement ?
Un ordinateur.
Ouais.
Beaucoup de réunions.
Ok.
Des coups de téléphone parfois.
Beaucoup de téléphone et puis beaucoup de coordination, quoi. Faire travailler les gens ensemble pour aboutir à un texte, à quelque chose, pour améliorer les bonnes pratiques.
Ok. Voilà.
En ce moment, par exemple, dans les nouveaux projets, il y a comment faire en sorte qu'il y ait plus de centres qui ont des résultats encore meilleurs. Et donc, comment faire en sorte que ça fonctionne mieux, voilà.
Parce qu'il y a des moyens peut-être pour améliorer le taux de réussite.
Voilà, il y a des centres qui ont des super résultats. Bon, on va utiliser ces centres-là pour accompagner d'autres à s'améliorer encore plus. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça permet meilleur accès à l'équité pour... devant la PMA.
Ok.
Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, comme dans tous les marchés en tension, il y a un marché parallèle qui se met en place, un marché du don. C'est quoi le message de prévention à transmettre à celles et à ceux qui envisagent ce moyen risqué ?
Alors là, on parle de don de spermatozoïdes artisanal, sauvage. Alors, il y a plusieurs risques. Le risque de transmettre une maladie infectieuse. Le risque de transmettre une maladie génétique. Il y a le risque, ensuite, on parlait de filiation. C'est le risque de dire, t'es mon père. Et le gars peut dire, j'étais qu'un donneur. Ah ben non, test génétique.
Donc il n'y a pas la protection de la loi.
Il n'y a pas la sécurisation de la filiation de l'enfant.
OK.
Elle sert à ça, la loi de bioéthique. Hein. Elle sert à protéger tout le monde, en fait. Hein. Le donneur, les receveuses et les enfants.
OK. Oh, c'est intéressant, franchement.
Moi, j'apprends plein de trucs.
Moi, là, je suis un peu stun par tout ça parce qu'on a beaucoup d'informations, mais c'est super intéressant. Hein. Ouais.
On va continuer, on va aborder un petit peu les idées reçues. Dans le chat, n'hésitez pas à nous donner des idées reçues si vous en avez. Kitty, Kyria, si vous avez des idées reçues, c'est le bon moment. On va essayer de débunker tout ça ensemble. Par exemple, est-ce qu'on doit être parent pour donner ?
Alors ?
Non, du coup.
Non, bravo.
Je peux répondre,
Tu peux répondre.
Let's go.
Doit-on être parent pour donner ? Non, la réponse est non. On peut donner en étant... Avant d'être parent.
Ouais.
Est-ce que le don d'ovocytes impacte la fertilité ?
Non.
Il faudrait que non.
Non, ça n'a pas d'impact.
C'est un peu ce que je racontais tout à l'heure. Ça n'a pas d'impact parce qu'on ne va pas aller fouiller dans l'ovaire, chercher... On va simplement utiliser les ovocytes qui, de toute façon, ce mois-là, aurait été dans la course à l'ovulation. Autrement dit, pour qu'il y ait un ovocyte qui soit fabriqué chaque mois, c'est parce qu'il n'était pas tout seul au départ, hein, au début du cycle. Ils étaient 12, disons. Et il n'y en a qu'un qui a pris le dessus et qui a réussi à ovuler. OK. Mm. Mais quand on donne les traitements hormonaux, on stimule les 12.
Mm. Okay, d'accord.
Donc on ne va pas aller puiser dans un stock, en fait. Mm. On utilise celui qui, de toute façon, allait s'évanouir, ce cycle-là.
D'accord. C'est fou.
Est-ce qu'on peut décider à qui on donne ou est-ce qu'on peut faire un don pour un proche?
Ça, on sait déjà que non, du coup.
Ah non, du coup, ouais.
On a appris que non.
On a appris que non, exactement.
Pour l'instant, sans faute. Hein.
Franchement, on écoute bien.
On écoute.
Bon élève.
Non, mais on continue. Y a-t-il un lien de filiation entre le donneur et l'enfant né du don?
Un lien de filiation?
Ouais.
C'est quoi exactement?
C'est un lien juridique qui dit que c'est son fils?
Oui, du coup. Enfin, il y a un lien de... qui dit que c'est son fils.
Que ça a été le donneur, mais par contre, il y a un truc qui dit que voilà, ça ne peut pas être ton parent juridiquement parlant.
Ah bah c'est pas le parent juridiquement.
C'est ça, ouais, c'est pas ça. Le parent juridiquement, c'était juste un donneur, pour qu'il ne puisse pas débarquer et être en mode « Salut, je suis ton gosse, je peux avoir ton héritage
?» La réponse est non. Non. Il n'y a pas de lien de filiation. En revanche, il y a une information à la majorité qui peut être... voilà, on peut avoir l'info, mais seulement l'info. Est-ce qu'il faut être en couple pour donner ses gamètes?
Bah non, ce serait bizarre.
Oui, ce serait un peu absurde en plus. Ouais. Non, mais je l'ai noté quand même. Hein.
Et puis si on est en couple, il n'y a pas besoin que le conjoint ou la conjointe soit d'accord. Hein.
Mm. Oui.
Ça, c'est important. Vrai. Ça a été le cas autrefois, c'est pour ça que je...
Okay. Ah waouh, autrefois...
C'était littéralement ma question suivante, c'était est-ce que l'accord du conjoint est nécessaire?
Ah du coup, non.
Non, sérieux, ça a été à une époque... Ah oui, c'était madame n'avait pas le droit tant que monsieur ne disait pas...
Et inversement.
Et inversement.
Ah, fallait
l'accord signé du conjoint.
Ouais.
Oh putain. Ah, c'est notre époque.
Et ça marchait que pour des couples mariés quand même, parce que si t'es juste en couple, c'est juste ton copain ou ta copine.
Non mais c'était absurde, c'était absurde. Bon, c'est terminé.
C'est terminé maintenant.
Heureusement.
Est-ce qu'on doit avoir la nationalité française pour donner ses gamètes?
Oh. En fait, une bonne question, il faut être pris en charge par la Sécu française. Pour pas payer pour tout ça, donc c'est toute la seule réponse que je peux donner.
Non, mais c'est ok.
C'est pas mal déjà.
Je la prends, elle est bien, elle est très très bien. La Sécu, et en tout cas, il faut être affilié à la Sécu.
Ouais.
Ok. Est-ce qu'on peut donner plusieurs fois?
Oui.
Alors les ovocytes, on a vu plusieurs fois. Quand on donne, c'est spermatozoïdes. Ce qui se passe, mais je pense que David, il va nous en parler.
Ouais. Mais vas-y, c'est pas grave.
Bah, en fait, on fait plusieurs recueils de sperme, en fait.
Ok.
Voilà. Donc, ça compte comme un don, mais en fait, on a fait plusieurs recueils.
Si vous avez des questions, Kitty et Kyria, allez-y. Hein.
Bah, pour l'instant, c'est assez clair.
Les plusieurs dons de l'homme, c'est dans la même journée?
Non.
Non. C'est jamais... faut être productif, quoi.
combien d'enfants peuvent naître de mon don?
Ah, eh bien, 10 maximum. La loi dit 10 max. Même si j'ai déjà des enfants... Si j'ai déjà 5 enfants, je peux quand même permettre la naissance de 10 enfants sur mon don.
Voilà. D'accord.
Et les enfants, ils peuvent être dans différentes familles ou il y en a qui peuvent être dans la même famille.
Mm. Ah oui, dans la même famille. Oui, ok.
Après, ça a l'air déjà d'être compliqué de réussir à avoir un enfant, pardon.
Ouais.
Si t'arrives à en avoir un deuxième...
Ça a l'air quand même, ça arrive. Mm.
Okay. Ça peut être le même donneur qui donne naissance, qui permet la naissance, pardon, de plusieurs enfants au sein d'une même famille.
Oui, tout à fait.
Et est-ce que les parents peuvent demander à avoir les mêmes donneurs du coup, même sans savoir qui c'est en gardant l'anonymat?
Alors, ils peuvent demander.
Ils peuvent demander, mais c'est
pas toujours possible. Mm. Okay. Parce que justement, tant qu'on n'a pas un très gros nombre de donneurs, on va pas pouvoir en garder en stock parce qu'il y a plein d'autres femmes et couples qui attendent.
Mais ils seront informés du coup que c'est pas le même donneur ou même donneuse. Ils seront informés de ça ou pas?
J'en sais rien.
Ok.
Enfin, en principe, il y a quand même cet anonymat, non? Du coup.
Oui, mais est-ce que c'est en fait c'est le même ou pas?
C'est du coup. Est-ce que.
En tout cas, tout ça pour dire qu'il faut des donneurs de spermatozoïdes et il faut des donneuses d'ovocytes.
Ça, il en faut beaucoup. Voilà. On l'avait dit au début de cette émission, on en manque énormément. Il y a beaucoup de parents qui attendent. Tac, tac, tac. Un enfant né d'un don peut avoir accès à l'identité du donneur.
Oui, à ses 18 ans.
Ah, oui, à ses 18 ans. Bravo. Les donneurs sont rémunérés en échange de leurs gestes?
Non. Mais par contre, leurs frais médicaux sont pris en charge.
Ouais.
Oui.
Mais pas que les frais médicaux,
les frais de transport, les frais d'hébergement s'il y en a.
C'est vrai que j'avais vu quelqu'un poser la question, est-ce qu'il existe une forme de congé pour donner, dans la mesure où il y avait quelqu'un qui disait le centre le plus proche, il est à 1h30 de chez moi, est-ce qu'il existe une forme de congé pour pouvoir aller...
Il y a même une loi, un article qui dit que... quand on donne, mais même quand on fait une AMP pour soi, on a des sortes d'autorisations d'absence, c'est-à-dire qu'on n'a pas de perte de revenus en allant faire son don. Et si jamais il y a une perte de revenus, parce que, je ne sais pas, c'est très très loin, il y a ci ou il y a ça, ou peu importe, sur facture ou sur certificat, la femme ou l'homme va être remboursé de ses pertes de revenus professionnels.
Et du coup, je me demandais, parce que ce n'est pas obligatoire que ça prenne du premier coup, on va dire. Parfois, voilà, c'est, l'enfant ne se fait pas. Est-ce que pour faire un nouvel essai, on revient au début de la liste d'attente ?
Non. Okay. On n'attend pas 18 mois à chaque fois. Hein. Heureusement.
On attend
pas longtemps, mais une fois qu'on est dans le circuit, ensuite, on enchaîne. Si ça ne marche pas une première fois, on essaye une deuxième, etc.
Et on a le droit à un nombre d'essais maximum, du coup.
Oui, c'était ma question, justement.
Ouais, en France, la Sécu, elle rembourse. Elle prend en charge 6 inséminations et 4 fécondations in vitro.
D'accord.
Alors, peut-être faut que je définisse ce que c'est.
Ouais, vas-y, je t'en supplie.
Ouais, si insémination, voilà.
Ça veut dire quelque chose. Une insémination, c'est quoi ? C'est un sperme qui est préparé au laboratoire et qui est déposé avec une petite pipette toute fine dans l'utérus de la femme. Mm-hmm. Ça, c'est une insémination.
OK.
La fécondation in vitro, c'est la rencontre de l'ovocyte et du spermatozoïde au laboratoire. Donc le spermatozoïde, recueil de sperme. L'ovocyte, c'est ce qu'on a décrit tout à l'heure pour la ponction de la donneuse, en fait. Donc le traitement hormonal, la ponction des ovocytes, on les récupère et ils se rencontrent au laboratoire.
OK.
Et on se rend compte, si ça fonctionne bien, ça fabrique un embryon. Et cet embryon, ensuite, il est déposé dans l'utérus.
D'accord.
Voilà.
OK.
Alors, l'insémination et le transfert de l'embryon dans l'utérus, ça dure très très peu de temps, ça fait pas mal du tout. Donc une insémination, c'est ce qui est beaucoup plus simple, moins douloureux, moins risqué qu'une fécondation in vitro. Donc souvent, on commence avec des inséminations, sauf si, par exemple, une insémination, ça fonctionne que si les trompes fonctionnent bien. Parce qu'il faut que les spermatozoïdes remontent dans l'utérus, dans les trompes, et rencontrent l'ovocyte dans la trompe.
On salue tous les bacheliers qui préparent le bac d'SVT, évidemment. C'est parce que je l'avais appris tout ça à l'époque, je m'en souviens, mes fiches de révision, etc. Mais tu vois, ça part avec le temps, et merci Claire.
Heureusement que c'est même au programme de 4e ou 3e, non ?
C'est possible que...
Ça fait mal, c'est possible.
Je me demande s'il n'y en a pas un peu au collège aussi.
C'est le cycle menstruel, je crois, en 3e.
La reproduction, quand même.
La reproduction directement,
ouais. Ouais.
Bon, courage. Courage. Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour apprendre et pour réapprendre. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour donner ces ovocytes ou ces spermatozoïdes ?
Ouais. Oui, ça, on l'avait vu.
C'est jusqu'à de 18 à 37.
Oui, à 37 pour les femmes et c'est jusqu'à 44 pour les hommes.
C'est ça. Ouais.
Bien joué.
Bravo.
Pas mal.
Très bien joué.
On est bon au quiz pour l'instant, franchement.
Non, mais en plus, on arrive à la fin du quiz. Je regarde un petit peu si dans le chat, il y a des questions. Je vois qu'il y en a beaucoup. L'insémination, c'est par les voies naturelles ou bien c'est une piqûre ?
Non, c'est par les voies naturelles. On est en position gynéco, il y a une pose de spéculum. Quand on pose le spéculum, on voit le col de l'utérus, en fait. Et là, on passe un petit cathéter, quelque chose de très souple, à travers le col, et c'est tout.
Et ça part.
Y a-t-il une date de péremption pour les dons ? Parce que je suppose qu'on congèle un peu tout ça, les spermatozoïdes.
Ah oui, on congèle.
Si on congèle, du coup, ça peut tenir éternellement, non ?
Ça tient vachement bien, congèle. Donc, non, il n'y a pas de date de péremption. Mais surtout, quand bien même il y en aurait une, on ne l'atteindrait pas. Non, il y a un peu...
Ouais.
Ça va, des demandes.
C'est utilisé assez rapidement, c'est ce que je veux dire. Ouais,
j'ai une question. Par exemple, si je veux garder mes gamètes pour plus tard, est-ce que je peux me faire un don actuellement pour plus tard, en fait
Alors, on n'appelle pas ça du coup un don, on appelle ça une autoconservation de ces ovocytes.
D'accord.
Donc, ça veut dire, tu fais ce qu'on a décrit tout à l'heure, le traitement, la ponction, et hop, les ovocytes récoltés, tu les conserves.
OK.
Ça, c'est gratuit. Maintenant, le fait de les garder au congélateur une année de plus, à chaque fois, c'est 40 euros.
OK.
Voilà. Et ça, tu peux le faire seulement de 29 ans à 36 ans.
De les garder comme ça. Hein.
Tu peux les prélever de 29 à 36.
OK.
Et ensuite, tu peux les utiliser jusqu'à ton 45e anniversaire.
Et est-ce que, par exemple, si je fais si j'ai cette volonté de les stocker, mais en fait, après, je me dis que finalement, je veux les donner.
Et
est-ce que c'est
génial.
Possible ?
Bah ouais.
Et voilà.
Exactement.
C'est parfait. OK, d'accord.
Et on peut faire les deux. On peut faire une pierre de coups aussi.
Et alors, on ne peut pas faire une pierre de coups.
Ah non, on ne peut pas ?
On ne peut pas.
Ah.
C'est soit conservation, soit
don. On fonctionne soit pour donner, soit pour soi, soit pour soi-même.
Et on ne peut pas en garder quelques-uns pour soi et donner les autres.
Non.
D'accord.
Pour les femmes, non. Pour l'homme, il y a tellement de recueils et tellement là, il peut en donner une partie, c'est pas grave. Mais pour la femme, on considère, c'est logique. C'est-à-dire qu'on considère que pour avoir des meilleures chances possibles que si tu en as besoin un jour, ça soit efficace, il faut en garder le plus possible, en D'accord. fait, parmi ceux que tu as récoltés. Si tu en donnes, alors, bah, tu réduis tes propres chances.
Si on veut faire une autoconservation, est-ce qu'on passe par tout le parcours de questions médicales, etc.?
Alors, c'est pas la même sélection, non?
Oui, mais justement, si du coup, non, je voulais conserver mes ovocytes et que plus tard, je me dis, bon, en fait, je m'en sers pas autant que je les donne. Alors, là, du coup, il faut passer quand même
le
questionnaire de... Okay. Ouais. Donc, on le passe au moment où on décide finalement qu'on les donnera.
C'est
mais pas... Okay.
pas avant.
Ok. Okay.
Quelqu'un qui dit que c'est dégueulasse que ça soit pas gratuit pour les femmes, vraiment, c'est tellement pas égal.
Hein ? Mais c'est gratuit pour les femmes ?
C'est gratuit pour les femmes.
C'est gratuit pour les hommes aussi, d'ailleurs.
Et on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi un truc assez impressionnant, mais c'est que le don d'ovocytes pour les femmes est beaucoup plus invasif et beaucoup plus... L'intervention est beaucoup plus impressionnante que l'homme qui va surtout faire une éjaculation. Et pourtant, il y a plus de femmes qui donnent que d'hommes.
Ouais. Ah
oui ? Ouais.
Et qu'est-ce qui explique ça ? Est-ce qu'on a des explications par rapport à ça ou...
Eh ben, les femmes sont plus généreuses. Et voilà. Les femmes sont plus attentives à l'autre, plus dans la sororité. J'aide une autre femme et je conçois peut-être plus facilement à quel point ça peut être douloureux de ne pas réussir à avoir d'enfant. Ou... Voilà.
Juré que ça aurait été l'inverse parce que c'est tellement plus facile pour les hommes.
Il y a quelqu'un qui dit « Je pensais qu'on avait trop de dons d'hommes. »
Oui, moi aussi, croyais. Je suis étonnée d'apprendre qu'on n'a pas assez de dons d'hommes.
Non. Non, il n'y a pas assez de dons d'hommes.
C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
On a des personnes exceptionnelles qui vont nous rejoindre en plateau tout de suite. Ce sont des donneurs. Venez rentrer sur le plateau. David et Anaïs, je vous en supplie, venez nous rejoindre. On va continuer cette discussion en direct sur Twitch. Cette émission spéciale avec l'Agence de la biomédecine. On parle de dons de gamètes depuis tout à l'heure. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes tous les deux donneurs et vous allez nous parler de votre parcours. On commence avec toi, Anaïs. Raconte-moi un peu ton histoire. Tu viens d'où ?
Et là, je viens de Guadeloupe. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Je suis arrivée sur Paris vers Covid, juste avant Covid. Mmh. Et voilà. Et j'ai un podcast qui s'appelle Fin. Et voilà.
Très bien. Mais tu as bien raison. Et toi, David, tu fais quoi ? Tu viens d'où ?
Moi, je suis graphiste et j'habite à Paris.
Ok. Donc, voilà. Anaïs, ça a été quoi ton premier contact avec le sujet ?
Bah, en vrai, j'en avais entendu parler quand j'étais au lycée en cours d'SVT.
Ok.
C'était, je sais plus c'était quand, mais on faisait des exposés sur plein de sujets divers et variés. Et une fois, il y avait eu toute la question des FIV, et j'en avais entendu parler là. Et ensuite, j'en ai réentendu parler via un post Instagram où il y avait une fille. En gros, il y a une personne que je suis qui avait reposté une fille qui avait fait tout un carrousel pour expliquer son don et comment ça s'était passé. Et pour moi, ça avait vraiment démystifié la chose. Et c'est quelques temps après avoir vu ce post que moi, j'ai pris mon rendez-vous pour faire mon don.
Alors, pourquoi tu as décidé de donner ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Je crois que c'est la sororité qui compte beaucoup pour toi.
Ouais, bah, en fait, pour l'instant, je veux pas d'enfant. Et je pense que ça, j'aurais pas envie d'avoir des enfants pendant très longtemps, voire jamais. Et je me suis dit, mais par contre, il y a des gens qui ont très envie d'en avoir. Pareil, j'avais travaillé avec une fille qui était en processus de FIV et qui vraiment galérait. Et c'était horrible de la voir vouloir absolument un enfant et avoir des tentatives qui échouent et devoir recommencer et avoir un traitement lourd, etc. Et voilà. Et je me suis dit que si ça pouvait aider des gens que moi je donne, que moi ça me coûte rien et que je peux, bah, pourquoi pas.
En vrai, c'est beau, hein.
Bah ouais, c'est trop cool.
Et du coup, tu peux. Enfin, moi, je suis intéressée par tout ce que tu as dû faire pour en arriver jusque-là. Enfin, est-ce que ça a été long, du coup, le processus ?
J'ai trouvé ça assez long. J'ai eu mon premier rendez-vous vers septembre-octobre, je pense.
Ok.
Et la ponction a eu lieu en janvier.
Janvier là ?
Non, c'était pas cette année.
Oui, ok.
Mais sur le processus, du coup, c'était assez long. Je sais qu'après mon premier rendez-vous, j'avais un délai de 30 jours, je crois. Je suis pas sûre, pour pouvoir réfléchir et me rétracter. Enfin, le premier rendez-vous, on m'a expliqué tout ce en quoi ça consistait, tous les risques possibles, etc. Et avec un délai pour si jamais je décide de me rétracter. Et ensuite, j'avais fait les autres rendez-vous. Il y avait un rendez-vous avec un psy. J'ai eu un rendez-vous avec l'anesthésiste et ensuite c'était des check-ups, en plus un côté check-up médical pour savoir quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce que ce sera possible, commencer aussi la stimulation avec les hormones et après ça, la date de la ponction qui vient dans la foulée.
Ok.
Alors j'avais une question du coup, est-ce que c'est douloureux la ponction? Parce que c'est un peu un mythe, enfin, c'est quelque chose que j'avais entendu. Mmh. Et c'est vrai que l'idée qu'on ait quelque chose qui a... Enfin, ça a l'air d'aller plutôt loin quand même. Enfin, ça n'a pas l'air...
pour le coup, c'était... Enfin, moi, je l'ai fait sous anesthésie générale.
D'accord, on peut faire une anesthésie générale.
Je ne sais pas comment ça se passe, s'il y a le choix ou pas. Moi, on ne m'a pas donné le choix, mais juste c'était anesthésie générale. En vrai, ça m'allait, puisque je pense que j'aurais un peu plus stressé si ça avait
été en local. Ouais, ça m'aurait stressé, je pense. C'est pour ça, je ne savais même pas qu'il y avait une anesthésie tout court, en fait. Ouais. Je pensais qu'on y allait et... c'est parti, quoi. Ouais, c'est ça.
Non, il y a une anesthésie. Et moi, j'ai beaucoup pris en charge des donneuses.
Ouais.
Et ça, souvent, je préférais la... Bon, ça dépend des endroits, l'anesthésie locale.
Ok. D'accord.
Et ça se passait super bien.
Ok.
D'accord.
Ah ouais, ouais.
Ok.
Et toi, David, raconte-nous un peu ton parcours. Comment est-ce que tu as entendu parler du don?
Ben, moi, en fait, j'étais à un apéro avec des copines qui étaient en couple. Et on parlait de tout, de rien. Et vient le moment où elles nous annoncent qu'elles sont enceintes. Et en fait, elles m'ont expliqué toute la difficulté qu'elles avaient rencontrée pour accéder à la parentalité. Et d'un coup, ça m'a fait... je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas pourquoi, on entendait toujours parler du don de gamètes, mais je ne sais pas pourquoi jamais ça m'était venu à l'esprit de donner. Et c'est là, à cet apéro, qu'en fait, je me suis dit, non, mais là, demain, je prends rendez-vous, j'ai appelé le Sécos, à l'époque, j'habitais à Bordeaux.
Et du coup, le Sécos
Le Sécos ou le CHU de
Bordeaux.
J'ai tapé sur Internet don de gamètes Bordeaux.
C'est ça.
Et je suis tombé sur ça. Ouais. Enfin, j'ai envoyé un mail et après tout s'enchaîne. Donc voilà, mais c'est vraiment là où. Ben, je pense que c'est un peu comme tout le monde d'ailleurs. On entend parler de ce sujet, mais on se sent peut-être soit pas concerné, soit. Voilà. Mais il suffit que quelqu'un dans notre cercle ait galéré. Et du coup, moi, j'ai même pas posé de questions. Je me suis inscrit direct.
Ben non, mais c'est trop cool, bravo.
Ouais.
Et même question que pour Anaïs, ça a duré combien de temps, du coup, entre le moment où tu décroches ton téléphone là, pour prendre rendez-vous avec le CHU de Bordeaux et le moment où tu fais ton don?
Moi, c'était un peu compliqué parce que j'ai donné et après, il y a eu le confinement. Enfin, j'ai voulu donner et il y a eu tout le truc du Covid.
Ah ouais, merde.
Mais c'est pas très réaliste, mais je pense que c'est relativement rapide. Hein. Bon, après, il y a tout le temps où on doit analyser, enfin, on doit faire des spermogrammes, des analyses de sang, on doit faire des rendez-vous avec le personnel médical. Et après, on donne plusieurs fois, ça doit être espacé dans le temps, parce que nous, on donne six fois.
Ça dépend des endroits, quelquefois.
En plus, ce qui est bien, c'est que. Enfin, je ne sais pas pour le don d'ovocytes, je pense que c'est en une fois ou pas. Mais nous, ça peut être étalé comme on veut. On peut dire. Enfin, je pense.
Oui, mais c'est plus facile. Tu sais, tu tords ton agenda. Ok, là, je peux ça. Don de vos sites, c'est.
À telle date et tout, j'imagine. Ouais.
Et là, dans trois jours, tu reviens faire une échographie. Et là, pam. Ouais.
Anaïs, comment tu as vécu le processus médical et émotionnel?
Vraiment bien. Enfin. Il y a plein d'idées reçues, de mythes autour de ça et de peur. Enfin, quand j'en parle à mes amis, par exemple, il y a souvent ce truc de « mais ça doit être hyper compliqué, hyper dur ». En fait, juste, c'est prenant et il faut pouvoir avoir le temps de le faire et de se poser dessus. Mais en soi, je l'ai assez bien vécu. Je n'ai pas eu d'effets négatifs en particulier. Je sais que pendant la prise d'hormones, il y avait plein de gens qui me posaient des questions. Et... Bah, c'est juste comme si t'as ton SPM, et moi il se passe pas grand chose pendant
SPM.
C'est le syndrome prémenstruel, c'est juste avant tes règles.
Ça fait rire, je pense.
Et du coup, comme moi il se passe pas grand chose, il s'est pas passé plus de choses que ça pendant la période de prise d'hormones. Juste vers la fin, je sais que mon ventre commençait un peu à tirer et c'était désagréable, mais ça faisait pas mal. C'était juste, je sentais que mon ventre il était tout tiré en bas. Et émotionnellement, pareil, j'ai rien eu en particulier. J'ai pas eu non plus de grandes réflexions ou de grands scénarios dans ma tête en mode mais qu'est-ce qui va se passer et puis si on me retrouve, etc., etc. J'y pensais pas plus que ça, je me suis dit, c'est un don, je donne, et puis après, c'est fini, quoi.
Ok.
Et du coup, est-ce que tu aimerais, par exemple, que le jour de ses 18 ans, il y ait un enfant qui soit né de ton don, qui vienne te faire un coucou et qui soit bah voilà, j'ai réussi, j'ai pu naître grâce à toi. Est-ce que, ou est-ce qu'au contraire, tu préfères...
T'as donné quand ? Avant ou après le changement de loi ?
Hein ?
T'as donné à l'époque où on était obligé de consentir à donner son identité ?
Donc t'as consenti à donner ton identité. Mmh,
d'accord.
Bah, moi, ça ne me dérange pas s'il ne veut pas me retrouver.
Ouais.
Mais ça ne me dérange pas non plus l'inverse, dans la mesure où... Enfin, je suis assez chill sur ça, si jamais il veut aller boire un café.
Oui, c'est plus, est-ce que tu souhaiterais, dans un monde idéal
Bah, je trouverais ça marrant quand même, de voir.
Mmh. Avoir connaissance, au moins, voilà, du fait que...
un gamin de 18 permis, ans, ouais.
non, mais du fait que tu aies permis de, voilà, quelqu'un d'avoir un enfant, quoi.
Ouais. Et puis ça montrerait que ça a marché.
Ouais, aussi. C'est ça. Mmh.
David, est-ce que tu as pensé au regard des autres en tant qu'homme ? Tu t'es senti jugé ou pas ?
Non, mais pas du tout. Moi, en fait, vraiment, c'est ce qu'on discutait aussi avant. C'est pour moi, ce qu'on donne, c'est une cellule. On donne rien d'autre. Enfin, surtout nous, les hommes, il y a tellement de spermatozoïdes gaspillés. On sait tous que autant qu'ils soient utiles. Enfin, donc non, je me suis pas du tout sentie touchée en tant qu'homme.
C'est vrai qu'on a. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on diabolise un peu tout ça, alors que on fait des dons du sang, des. Enfin, c'est un peu pareil finalement. C'est juste pour aider quelqu'un.
Oui. Et en plus, le don du sang, c'est vraiment super utile. Le don de plasma aussi. Le don de son vivant, en fait, on se rend compte qu'il y en a pas tant que ça, parce que. Enfin, on peut faire. Voilà, les plus faciles pour moi. Enfin, c'est ce que j'avais regardé après. Don du sang, don de plasma, don de spermatozoïdes. Et au final, après.
Okay.
C'est plus tard, quand on sera plus là. Mais non.
Tu fais la promotion de l'accès aux origines, ça veut dire quoi ?
Hein ?
Tu fais la promotion de l'accès aux origines, non ?
C'est-à-dire ?
Je sais pas, c'est un truc que j'ai noté quand j'ai préparé l'interview, mais je croyais que tu faisais... Ce qu'on appelle l'accès aux origines, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est,
À partir de 18 ans.
À partir de 18 ans, et puis connaître son origine.
Alors, oui.
Toi, ça te convient ou ça te convient pas ?
Moi, je m'en fiche aussi, parce qu'en fait... Moi, la raison première pour laquelle j'ai voulu faire mes dons, c'est de rendre des familles heureuses. Il faut savoir que les familles qui ont envie d'un enfant, mais qui ne peuvent pas en avoir, c'est vraiment un désastre dans la vie. C'est horrible. Moi-même, je sais qu'il suis homosexuel. On sait très bien que c'est très difficile à avoir des enfants. Donc après, l'accès aux origines, en vrai, c'est secondaire déjà pour que l'enfant vient de frapper à ma porte. Je pense que maintenant, ça serait plutôt dans nos airs, ça serait plutôt un petit mail ou un MP Insta ou je sais pas. Mais du coup, non, moi, j'ai pas peur. De toute façon, je pense que dans 100% des cas, ce sera de la bienveillance.
Oui.
Ça sera.
J'imagine pas l'enfant issu de ton don venir t'insulter parce que tu l'as permis
ou
de naître.
Ou vraiment, ça
fait probable.
Ça fait un film sur Netflix, du coup, ça serait bien. Mais non, en vrai, je pense que c'est que de la bienveillance. Donc ça me fait pas du tout flipper. Enfin, je sais pas toi, mais...
Non, ça me...
Justement, ça ferait de la reconnaissance aussi, je trouve. Ça ferait un peu plus de concrétisation dans le projet qu'on a mené.
C'est quoi les messages que vous avez envie de faire passer ? Notamment pour les personnes qui hésitent. Il y a peut-être des gens dans le chat là, qui nous écoutent et qui hésitent à donner leur gamète, à donner leur spermatozoïde ou à donner leurs ovocytes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Que c'est pas si dur. Enfin, que c'est pas autant une montagne que ce qu'on en fait, quoi.
Mmh. Okay.
Oui, c'est...
Ouais. Mmh.
Toi, tu l'as pas mal vécu, quoi.
Pas du tout.
Ouais.
C'est quoi les principaux freins, d'après vous ? C'est quoi ? C'est culturel ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas autant de donneurs qu'il en faudrait ?
Après, je sais que moi, j'en ai pas mal parlé avec les hommes. Et en fait, les freins, ils sont bizarres.
C'est quoi ?
En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils vont donner et qu'ils vont avoir des enfants quelque part dans le monde, en France. Mais en vrai, on donne juste une cellule et c'est pour aider à des gens... d'avoir une famille. Donc après, il ne faut pas se mettre dans la tête qu'on aura des enfants quelque part, parce que les enfants, ce sera... Enfin, on n'est pas parents, ce sera des enfants qui seront élevés par leurs propres parents. Moi, je pense qu'il y a ce frein-là. Après, il y a le frein aussi culturel, il y a les convictions. Mais normalement, ça devrait être emporté sur le fait qu'en fait, on fait des dons pour rendre heureux les gens. Vraiment.
Il y a 8 Français sur 10 qui sont pour le don de gamètes. Et on dit que la moitié des Français seraient prêtes à faire un don. Alors, qu'est-ce qui bloque?
Parce que la moitié, alors qu'il y a 1000 donneurs, c'est ça?
Oui, c'est ça, alors qu'il y a 1000 donneurs.
On n'est pas vraiment la moitié de la France, là.
Genre, dans l'absolu, ils disent pourquoi pas quand on leur pose la question dans un sondage. Puis quand il s'agit de passer... de passer l'étape, ça ne marche pas.
Après,
pourquoi,
est-ce que
Claire,
ça prend pas en compte aussi justement tous les gens qui ne peuvent pas être donneurs? Enfin, j'imagine qu'il y en a une partie des gens...
Oui, il y en a plein qui en fait, qui n'ont pas réfléchi à la question et qui se disent dans l'absolu, ouais, j'aimerais bien. Mmh. Mais attends, ce n'est pas non plus un processus de sélection qui fait qu'il n'y a que 1000 personnes dans ce pays qui peuvent donner.
Oui, bien sûr, mais j'imagine que ça joue un peu, parce que je crois que c'était un quart des gens qui voulaient donner qui ne pouvaient pas, c'est ça? J'ai mal retenu le chiffre.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas cette proportion-là qui explique que il y a des millions d'hommes qui seraient susceptibles de donner, ou en tout cas de faire la démarche, et pourtant ils ne le font pas.
Oui.
Mais après, on est. Enfin, moi, j'en avais pas besoin parce qu'on y allait à pied, mais je sais qu'il y a le truc où on est remboursé des transports et tout ça.
Ouais.
Enfin, il y a quand même une prise en charge. Donc c'est assez facile. Il faut juste avoir de la place dans son agenda de temps en temps.
Ouais. Bah alors justement, combien de temps ça prend la procédure de don globalement? Alors toi, tu dis que tu as été perturbé par le Covid à un moment, donc c'est vrai que ça perturbe un peu, mais...
Combien de temps?
Toi, ta analyse, ça dit 4 mois, quoi, entre septembre et janvier. Ça va.
Non, c'est pas long, oui.
Pour les hommes, c'est plus rapide, je pense.
Ouais, toi, tu as le rendez-vous en 2-3 mois et...
Ouais, 6 semaines, je dirais.
6 semaines. C'est-à-dire qu'au premier rendez-vous, tu as fait ton premier recueil.
Explique-nous exactement les étapes, parce que tu dois rencontrer un psychologue, etc. Dis-nous comment ça marche.
Les étapes depuis le début.
Ouais, depuis le début.
Tu rencontres l'équipe médicale qui t'explique tout. Ouais. Après, ils vont regarder si dans tes antécédents familiaux, il y a eu des maladies. Ils te demandent s'il y a eu des cancers, d'autres types de maladies. Ensuite, tu fais les analyses. Tu fais un premier don de spermatozoïdes qui est analysé. Et après, tu sais si tu es sélectionné ou pas.
Si tu as gagné, c'est ça.
Et ensuite, tu peux faire ça toutes les semaines. En fait, il ne faut pas avoir de rapport sexuel pendant 5 jours avant le don.
Il y a 5 jours avant le don, tu dois t'abstenir.
T'abstenir de tout.
Ok.
Donc voilà. Après.
Il y a une raison médicale à ça?
Bah ouais, pour qu'il y ait le plus possible de spermatozoïdes en forme dans l'éjaculat.
Non, logique, ça a complètement du sens.
Et en fait, comme il y a 6 dons, tu peux en faire un par semaine, vu qu'il y a 5 jours d'abstention à chaque fois.
Ouais. Donc oui, donc tu en fais un par semaine.
6 semaines, 2 mois, comme toi. Voilà. En
fait. Ok. Ensuite, ça dépend de l'agenda. Hein. Si tu n'avais pas été dispo, on t'aurait dit, écoutez, revenez dans 2 mois.
En plus, c'est hyper souple. Hein. On peut faire un don là, après un autre don. Le principe, c'est quand même de terminer le parcours. Mais c'est vraiment très souple. Hein. On n'est pas obligé de faire ça. Un don par semaine, on peut faire.
Est-ce qu'on peut avoir un arrêt de travail
pour
faire le don? On peut?
Ah oui.
C'est cool, ça.
Et on peut aussi avoir juste une attestation du sang disant que si on est prêt à le dire à son employeur, on peut être libéré du coup du travail le temps de faire le don et on n'a pas de perte de revenus.
Ok. Ouais.
C'est dingue, avec tous ces avantages.
Il y a encore des mecs, ouais.
C'est ça, qu'on n'est toujours pas de...
Ouais, mais en fait, je pense que c'est beaucoup un manque de connaissances, tout simplement.
Ça, hein. Ouais.
Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que justement, il y a beaucoup de trucs où on se dit, oui, mais ça doit se passer plutôt comme ça, plutôt comme ça, plutôt... notamment, du coup, pour les femmes. C'est vrai que moi, j'avais ce truc en tête de... ça va être super douloureux, tu vas être réveillée tout du long. Et forcément, ça fait peur, quoi. Ça fait peur, ça donne pas envie. Et en fait, quand on en apprend plus, on se rend compte que c'est plus simple que prévu, quoi.
Toi, Anaïs, ton don, tu l'as fait en métropole ou en Guadeloupe?
Je l'ai fait en métropole. Et parce que je trouve qu'en Guadeloupe, on n'est pas trop au courant de ça.
Ouais.
Déjà, je n'étais même pas sûre qu'il y avait un centre de don en Guadeloupe.
Il y en a un.
Ouais, je me suis posé la question.
Aller donner en Guadeloupe. Non, mais oui, en fait, en Outre-mer, il manque encore plus de donneurs, en fait. Ouais. Donc, je suis là pour le dire. Hein.
Mais dis-le. En Outre-mer, allez-y, donnez un maximum. En Outre-mer, on en manque beaucoup.
Parce qu'en fait, les dons sont tabou, dans la région, utilisés dans la région, de toute façon.
Il peut y avoir aussi des échanges entre les régions.
Ah, oui.
Ça s'est fait pas mal ces derniers mois, juste avant que... on passe des donneurs anonymes aux donneurs non anonymes, il a fallu vider les cuves, en quelque sorte, et du coup, répartir les choses. Donc ça, c'est possible. Tu allais dire un truc?
J'ai l'impression qu'il y a un tabou... moi, je parle pour la Guadeloupe, mais j'ai l'impression qu'il y a un tabou autour de tout ce qui va concerner les PMA, globalement, parce qu'il y a encore un fort... truc qui fait qu'on a envie d'être fier et que bah, aux yeux des grandes tantes, etc., ça va être la honte si tu dois faire appel à une PMA. Oui, ça n'a pas de sens, mais...
Non, mais je sais ce que tu veux dire, ça, ouais, c'est un vieux substrat culturel qui maintient un peu le truc.
C'est le truc de, bon, bah, tu ne peux pas le faire toi-même, bon, voilà. Et puis, il y a aussi un giga manque de connaissances aussi. Les gens ne sont pas au courant. Y a, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de campagne que ça pour l'instant, en tout cas.
Ça y est, si.
Et maintenant, ouais.
Il y a même des émissions sur Twitch.
Voilà.
Non, c'est nouveau, mais oui, ça y est, ça commence.
C'est quoi les risques éventuels pour les donneurs et les donneuses?
Alors,
il y a des risques.
Les risques pour les hommes, non.
Non, il n'y a rien.
Voilà. Pour les femmes, les risques sont liés plutôt à la ponction elle-même. C'est un geste qui est chirurgical. Donc, il y a un risque d'aller blesser, par exemple, un vaisseau sanguin et du coup d'avoir une hémorragie interne.
D'accord.
C'est très rare, ça peut arriver.
Mais ça fait partie des risques.
Ça fait partie des risques. Y a celui d'avoir une infection, pareil, hyper rare. Et il y a celui d'avoir une surstimulation, une hyperstimulation. Tu n'as pas eu de problème, toi. Mmh. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on donne des hormones pour que ça, voilà, fabriquer pas mal d'ovocytes et puis qu'il y en ait trop. Et quand il y en a trop, ensuite, ça peut faire franchement très mal au ventre et tout ça. Mais c'est du coup, dans ces cas-là, on arrête. Et puis, ça guérit, et puis voilà.
OK.
Mais j'ai entendu. Il n'y a pas de ponction, du coup.
Et du coup, il n'y a pas de ponction.
Okay.
D'où faire des dons du sang aussi. Comme ça.
Oui. Faites des dons du sang aussi. J'ai entendu dire que les personnes issues de la diversité attendaient plus longtemps pour avoir un don de gamètes.
Oui.
C'est vrai, et pourquoi?
C'est vrai parce qu'il n'y a pas la même diversité parmi les donneurs qu'il y a parmi les gens qui ont besoin d'un don. Donc c'est pour ça que les personnes comme Anaïs sont très précieuses dans les centres de dons. Et c'est vraiment un problème. Donc les listes d'attente vont être plus longues quand on est noir, quand on est asiatique, quand voilà.
Ah ouais, d'accord.
D'accord, parce qu'on manque de donneurs.
Parce qu'on manque de donneurs, ouais.
Parce qu'on manque de donneurs qui correspondent. Oui. Ok, c'est intéressant. Est-ce qu'une même personne peut recevoir un don de spermatozoïdes et un don d'ovocytes?
Ça s'appelle le double don.
Alors.
C'est possible. Ça fait partie des nouveautés aussi 2021. Et ce qui est aussi, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a besoin à la fois d'un donneur de spermatozoïdes et d'une donneuse d'ovocytes. Et il y a aussi une autre possibilité pour ces personnes-là, c'est d'avoir recours à ce qu'on appelle l'accueil d'embryon. Donc on peut aussi recevoir un embryon qui a été donné par quelqu'un.
Okay.
Parce que les gens font leur FIV pour eux-mêmes. Et quand on fait une FIV, donc une fécondation in vitro, il y a souvent des embryons qui sont en plus et qui sont congelés. Et les gens peuvent avoir eu leurs enfants grâce à la FIV et il reste des embryons congelés. Et ces embryons-là peuvent être donnés à des femmes, des couples.
Okay.
D'accord.
Voilà.
Incroyable. Vous avez des questions, Kitty et Kyria?
Vas-y. Est-ce qu'il y a un parcours spécial, du coup, par exemple, pour demander à recevoir un don? Ou est-ce que, on va dire, n'importe quelle femme, du coup, plutôt a priori, peut demander. Comment dire, est-ce qu'il faut justifier, par exemple, d'une infertilité? Est-ce qu'il faut y a des justificatifs pour demander un don
Non, il n'y a plus besoin de justifier d'une infertilité.
OK.
Du tout. D'ailleurs, c'est ouvert aux couples de femmes, aux femmes non mariées, pas besoin. Voilà.
D'accord. Okay.
Complètement dissocié de ça.
D'accord.
Donc, il faut faire prendre un rendez-vous dans un centre qui réalise des fécondations in vitro.
Mm-hmm.
Donc, ça, il y en a une centaine en France. Et ensuite, il faut en plus avoir un rendez-vous dans un centre qui font du don. Voilà. Donc, et là, il y a une trentaine de centres, pour être globalement. Donc, quelquefois, il y a le centre qui fait et ta prise en charge initiale et ton don. Et puis, quelquefois, bah, tu le fais ta prise en charge quelque part. Tu vas rendre t'as rendez-vous dans le centre de don et tu viens faire ta tentative dans ton centre de début.
OK. Voilà.
Tu disais tout à l'heure, il y avait un sixième des couples où il y avait de l'infertilité. Est-ce que ça a augmenté par rapport à avant ou pas?
Ouais. C'est quelque chose qui augmente. Ouais.
Et c'est pour ça aussi que le don devient de plus en plus important.
Alors le don, il est devenu encore plus important grâce, à cause ou lié à la loi de bioéthique qui permet à plus de femmes d'avoir accès au don.
Oui.
Voilà. Mais l'infertilité augmente en France, c'est certain.
Ok.
On sait pourquoi ça augmente?
Alors il y a plein de facteurs, notamment. L'âge au premier enfant qui augmente, on essaye d'avoir des enfants plus tard et du coup, on a moins de chances que ça fonctionne. Et puis, il y a plein d'autres facteurs qu'on appelle les facteurs environnementaux. Donc, c'est la pollution, le tabac, l'alcool, etc., qui va altérer possibilité de progrès.
Et on rappelle donc que l'on peut conserver des ovocytes pour soi, puis en faire un don.
On peut faire ça. Et ça,
il y a de plus en plus de femmes qui le font d'ailleurs, je crois.
Plus en plus de femmes qui font l'autoconservation. Alors pareil, c'est du jour au lendemain, la loi l'a permis. Et les centres qui sont autorisés à le faire, ce n'est pas les 100 centres en France, c'est seulement une quarantaine. Et donc, il y a aussi une sorte d'embouteillage et des délais qui sont assez longs. Et voilà.
Imaginons, j'ai un moyen de contraception, que ce soit stérilet, pilule, etc. Ouais. Est-ce qu'il faut que j'arrête ce moyen de contraception pour après pouvoir faire un don? Ou est-ce que je peux toujours garder ce moyen et après…
Alors, ça dépend lequel.
D'accord.
À partir du moment où tu as une contraception avec des hormones…
Donc, pilule?
Pilule, elle va être neutralisée, donc tu dois arrêter ta pilule.
D'accord.
C'est incompatible.
OK.
Donc, ça veut dire qu'il faut absolument une autre méthode de contraception ce mois-là.
D'accord. OK.
Voilà. Et si tu as un stérilet, tu peux garder ton stérilet.
OK.
Mais il est inefficace, du coup, pendant la période…
Un stérilet au cuivre que tu as dans ton utérus, il va continuer à faire son effet.
Oui, mais un stérilet hormonal…
Hormonal, il a un petit peu d'action mécanique encore, mais on dit ceinture, bretelle, hop, et préservatif en plus.
OK.
Ok.
Y a une tournée qui va être organisée par l'Agence de la biomédecine qui s'appelle Fête des parents, une opération de sensibilisation aux dons de gamètes. C'est une tournée, Fête des parents. Raconte-nous, Claire, qu'est-ce que vous voulez faire?
Eh bien, ce qu'on arrive à faire. On a déjà fait ça l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a un bus avec logoté, etc., et qui arrive dans un centre-ville et qui parle du don de gamètes avec des gens qui vont un peu dans le centre-ville raconter les choses. Des donneurs, des donneuses, des personnes qui ont bénéficié d'un don, qui ont des enfants souvent, qui viennent témoigner. Et ça fait un peu le buzz dans la ville. Et du coup, il y a des gens qui peuvent venir dans le bus prendre des rendez-vous.
Ah.
Voilà. Donc il y a des membres de l'équipe qui sont là, biologistes, gynéco, secrétaires, et c'est très sympa. Et on peut répondre aux questions des gens et prendre des rendez-vous dans le bus. Et ça donne un coup de boost un peu comme ça à l'information sur place. Et il y a d'un coup plus de gens qui viennent s'inscrire dans les centres quand on fait cette opération-là.
Pas mal de gens qui disent ouais, pourquoi pas le faire, mais de là aller faire la démarche d'aller le faire.
Ouais. Donc plus il y a d'occasions d'avoir des infos. Plus il y a de chance, ensuite, c'est dire, bon, allez, hop, je m'y vais.
Et donc, il va aller dans 10 villes, c'est ça, ce bus ?
10 villes.
10 villes.
10 villes dans lesquelles il y a un centre de don de gamètes.
Alors, je vais me permettre de donner les dates, ça. Les gens vous écoutent, et quand vous entendez le nom de votre ville, vous notez la date, et vous allez rencontrer le bus qui s'appelle Fête des parents, le nom de cette opération. Paris, le 17 septembre, Amiens, le 20, Rouen, le 24 septembre, Brest, le 27 Tours le 1er octobre, Poitiers le 4 octobre, Limoges le 8 octobre, Dijon le 11 octobre, Grenoble le 15 octobre et Marseille le 17 octobre. Voilà, 17 septembre au 17 octobre pour cette tournée. Qu'est-ce qu'on pourra faire dans ce bus alors?
Et on peut rencontrer des professionnels pour avoir plein de réponses à la question qu'on se pose et on peut même prendre le rendez-vous.
Ok.
Ouais.
Trop bien. Trop bien. Surtout, n'hésitez pas. Les gens dans le chat, si vous avez des questions, on arrive à la fin de cette émission, c'est le moment de les poser, on va répondre à toutes les questions que vous avez à poser. Je ne sais pas si Kyria ou Kitty, vous avez encore des questions. Vous avez appris plein de trucs, vous aussi, vous êtes comme
moi. Ouais, on a appris plein de trucs, là. C'est ça, là, mon cerveau, il est en ébullition, mais c'était vachement cool, en fait. Je réfléchis un peu, je reviens dans 2 minutes.
Je ne sais pas si c'est toujours le cas, moi, quand j'avais fait mes dons, je me retrouvais dans la même salle d'attente que les futurs parents.
Wow.
Après, ils ne savaient pas que
tu venais donner.
Oui. Et puis, ce n'était pas ceux qui recevaient de
non,
toi.
C'était
mais
pas
ouais,
ceux qui
recevaient. Mais c'était, ça t'a fait bizarre?
Non, moi, j'ai trouvé ça super bien. J'ai trouvé ça beau, en fait, de voir vraiment les gens qui étaient en attente. On voit que, mais vraiment, il y a... Enfin, c'est tout le monde.
C'est de l'humain, tout ça.
Ouais.
Il y a Ilit qui demande, est-ce que la levée de l'anonymat a fait baisser le nombre de dons?
Eh bien, non.
Non?
Ah ouais.
Semble pas.
Parce qu'on aurait pu imaginer que la loi de bioéthique, ça effraie un petit peu les gens. Bah,
la loi de bioéthique a fait multiplier par 2 le nombre de donneurs. On n'était que à 300, on partait de loin.
Ah oui, oui. Oh, wow, 300
Ouais. Ensuite, ça a un peu stagné, puis on a l'impression que 2024, il y en a de nouveau un peu plus. Donc voilà, on attend de voir.
Est-ce qu'on peut faire un don d'ovocytes lorsqu'on est atteint d'endométriose?
Si on a une endométriose sévère qui fait très mal, il ne faut pas le faire.
Okay.
Ouais, parce que ça fait super mal sinon, hein, les hormones et tout. Si c'est une endométriose très peu sévère qui fait pas mal, ok, mais sinon, non, faut pas. Enfin, faut pas s'imposer ça, je pense.
Donc ça fait pas partie des soucis de santé qui font qu'on ne peut pas être donneur, du coup?
Non, ça dépend en quelle gravité et l'endométriose, tu vois. En soi, non, mais...
À quel point est-ce qu'il faut être en santé nickel?
Eh bien, pour le savoir, il faut prendre rendez-vous dans un centre de dons.
Prenez rendez-vous.
Voilà.
Du coup, les personnes adoptées ne peuvent pas donner?
Eh bien, ben, c'est compliqué.
Ah, ah ouais?
Ben, parce qu'on ne connaît pas les antécédents.
Les antécédents
en fait.
Familiaux, ouais.
Eh oui. Même en regardant du coup le background génétique, ça
en fait,
suffit pas.
On fait pas en France de tests génétiques de tout ton génome okay. pour savoir si tu as un risque ou pas.
D'accord.
Donc ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est vraiment sur l'interrogatoire, sur la connaissance des familles. Ouais.
Et du coup, cette loi sur l'éthique, elle s'applique pour les dons, mais elle s'applique pas pour l'adoption?
Non, c'est autre chose.
Ok. Mmh.
C'est quoi le coût annuel de l'ensemble de ces prises en charge? On t'a reconnu, François Bayrou. Hein. Tu veux faire des économies? Non, j'en sais rien.
Je sais pas.
C'est une très bonne question. Ça doit être dans un rapport sur le budget de la Sécu, hein, quelque part.
En tout cas, pour les hommes, ça doit coûter beaucoup moins cher parce que c'est tellement.
C'est beaucoup plus rapide, ouais.
Il n'y a même pas de chirurgie, il n'y a rien.
Mm. Ah, donc, donner les hommes, en fait. Voilà. Ouais. C'est non, mais les temps, là.
Jusqu'à l'année dernière, il y avait plus de dons d'ovocytes que de dons. De spermatozoïdes en France.
C'est vraiment impressionnant, ça.
C'est la première année où...
C'est l'information à laquelle je ne m'attendais pas, quoi.
Ouais. Ouais, moi, donc, les pareil. Hommes le, qui sont sur le chat, allez-y, donnez.
Allez-y, donnez, hein, prenez rendez-vous dans un centre de dons.
Imaginez que ce soit vous qui ne pouviez pas avoir d'enfant. Et c'est tellement facile que vous pourrez rendre plein de gens heureux, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est, en vrai, c'est simple, en plus. Enfin, ouais. C'est simple, entre guillemets. Maintenant, moi, je pense que je vais sincèrement le considérer parce que c'est, comme tu le dis, ça ne t'a pas pris tant de temps que ça. Et ouais, en 2-3 mois, tu peux peut-être sauver la vie de plusieurs personnes, c'est assez fou.
Mmh. Et puis tu te dis, moi, j'ai fait ça, quoi.
Ouais. Mmh.
Hein? C'est petite fierté, quand même. Hein. Tu peux.
Et donc, pour celles et ceux qui parlent d'argent, on le redit, on l'a appris dans cette émission, non, il n'y a pas de rémunération possible pour un don. En revanche, il y a une prise en charge de vos frais de dérangement, si je puis dire, pour vous permettre de donner. On arrive à la fin de cette émission, si on essaye de récapituler tout ce qu'on a appris. Et ça fait beaucoup de choses.
Il faut donner.
Claire, il faut donner. Ça, il faut donner, c'est important. Comme le dit d'ailleurs très très bien le slogan de votre campagne, ne faites pas des bébés, faites des parents. C'est, vous réussirez à faire des parents en donnant vos gamètes. Prenez rendez-vous dans un centre. Il y en a combien des centres en France?
Il y en a une trentaine.
Il y en a une trentaine.
Et alors, savoir lequel est le plus proche de chez vous, il faut aller sur Internet. Il y a un site qui s'appelle dondovocytes.fr. Il y en a un qui s'appelle dondespermatozoïdes.fr qui est fait pour les candidats aux dons. Et dessus, on peut savoir où aller. Puis on a plein.
Il y a un Insta aussi.
Il y a un Insta, je donne mes ovocytes, et un Insta, je donne mes spermatozoïdes.
Exactement, il y a un Insta chacun, n'hésitez pas à les follow, n'hésitez pas à aller sur les sites internet pour trouver toutes les informations et pour prendre rendez-vous, et vous recevrez encore plus d'informations. Kitty, Kyria, vous avez appris quoi d'autre?
Déjà, par rapport à l'âge, qu'il y a vraiment ce gap entre, il faut être 18-37 ans pour les femmes, 18-44 pour les hommes. Je ne pensais pas que c'était... aussi, il y avait une limite à ce point-là.
Ouais.
Ça ne me choque pas tant que ça. Je pense que c'est pour la fertilité.
C'est ça, bien sûr.
Je pense à la fertilité, oui, carrément. Ouais.
Qu'est-ce qu'on a appris d'autre?
Beaucoup de choses.
Moi, c'est le processus au global. C'est comment ça se passe, du coup, concrètement. Enfin, voilà, c'est un petit peu tout ça, quoi.
Aussi, par rapport à la limite de don, parce que c'est 4 pour une femme. Pour un homme, on a dit que c'était plus, c'était à peu près 10, hein, c'est ça?
4 ça à 6 dépend, recueils, ça dépend, tu vois.
L'efficacité. Okay.
Ouais. Ouais, donc...
Ouais.
Voilà, ça nous fait quand même pas mal d'informations. Il me reste plus qu'à remercier chaleureusement nos invités. Merci Claire, merci Anaïs, merci David d'être venus nous informer et nous sensibiliser sur le sujet du don de gamètes. Merci Kitty Kyria, c'était trop bien d'être avec vous.
Ouais, c'était trop bien d'être là.
Merci beaucoup, merci à vous dans le chat, merci les modos, merci pour vos questions. C'est la fin de cette émission, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.